Bonjour chers auditeurs, Catherine Mann au micro pour L'Esprit du Livre, une émission qui vous présente chaque mois quelques livres de parution récentes ou plus ou moins récentes et qui concernent directement et indirectement la foi chrétienne. Et voici tout d'abord le père Roger Willem qui vous présente un premier ouvrage.
L'Esprit du Livre, voici deux ouvrages parus récemment qui m'ont beaucoup surpris par la profondeur et la nouveauté de leur contenu. Il y a d'abord le titre « Selon Saint Marc » de Sandro Veronesi, paru aux éditions Grasset au mois d'avril 2017. Sandro Veronesi restitue avec beaucoup de malice toute la modernité du premier, du plus bref, mais surtout du plus énigmatique des quatre évangiles, celui de Marc. Selon Veronesi, ce texte écrit à Rome, à l'attention des Romains, est une machine à conversion, d'une efficacité narrative redoutable, ressemblant davantage à un scénario des films de Quentin Tarantino ou de Sergio qu'aux autres évangiles, minutieusement réglés sur l'imaginaire épique et l'univers de ses destinataires, il dessine une figure de Jésus très très singulière. Les références à la culture contemporaine, ainsi que le ton parfois insolent de Sandro Veronesi, rendent la lecture de cette analyse particulièrement réjouissante. Selon Saint Marc, recèle de nombreuses découvertes aussi surprenantes que truculentes sur l'un des fondements du christianisme, le récit de la vie d'un héros solitaire et mystérieux, le Christ. Alors, qui est Sandro Veronesi? Alors, il est né en Toscane en 1959. Il obtient un diplôme d'architecture à l'Université de Florence avant de se tourner vers l'écriture. Il a notamment remporté le prix Campiello et le prix Via Roggio pour La force du passé, puis le prix Srega, le prix Méditerranée et le prix Femina pour Chaos Calme, également adapté au cinéma. Voici un passage. Un chef de bande. Une resplendissante démonstration de l'infaillibilité des prédictions de Jésus nous est donnée dans la scène qui conduira à son entrée à Jérusalem. « Allez au village qui est en face de vous, dit-il, et aussitôt que vous y aurez pénétré, vous trouverez à l'attache un ânon que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit « Que faites-vous là ?» dites « Le Seigneur en a besoin aussitôt, il va le renvoyer ici. » Or, c'est exactement ainsi que les choses se passeront. C'est ici que Marc décide de mettre à profit le crédit qu'il a accumulé précédemment en narrant le geste de Jésus comme celle d'un héros invincible et indiscutable. Ici, qu'il lance son premier défi qui exige la foi. Désormais, il faudra croire, mais croire profondément. Jusqu'à présent, tout a été facile parce que Jésus avait toujours raison, qu'il gagnait toujours, qu'il était toujours le plus sage, le plus éclairé, etc. Mais à partir de maintenant, vont se produire des événements en violente contradiction avec tout cela, et pour les accepter, il faudra croire en lui aveuglément. Ce dont les apôtres le verront, se montreront incapables, mais cette incapacité constituera un avertissement très clair pour le lecteur auditeur. En effet, s'il ne parvient pas à dépasser l'obtuse incrédulité des douze, il faudra nécessairement qu'il s'assimile à eux alors qu'ils sont si impitoyablement moqués. La vraie conversion, la véritable évangélisation commence ici avec l'entrée à Jérusalem.
Merci au Père Willem, et à mon tour, je vous présente un livre dont la bibliothèque diocésaine de Chartres vient de faire l'acquisition, et dont le titre est « Le prix du salut », sous-titre « Les chrétiens, l'argent et l'au-delà en Occident du 3e au 7e siècle ». C'est bien sûr un livre d'histoire, très spécialisé, dont l'auteur est Peter Brown, un grand spécialiste de l'histoire de l'Antiquité, professeur à l'université de Princeton aux USA, donc prestigieuse université. À première vue, l'ouvrage s'adresse donc à des lecteurs assez éclairés, ou en tout cas suffisamment passionnés d'histoire pour entrer dans une analyse extrêmement pointue des événements de l'Antiquité dite tardive, c'est-à-dire la période qui prépare le Moyen-Âge, juste avant le Moyen-Âge. C'est une période qui a vu beaucoup de changements dans l'Église, dont par exemple l'évolution vers une autre conception du salut et l'affirmation de l'existence du purgatoire. Il y a également le rôle que va prendre de plus en plus l'argent comme rachat pénitentiel, ce qui finit par aboutir aux indulgences. Cette époque est aussi celle de l'énorme développement des monastères et d'une spiritualité ascétique. Et l'auteur fait remarquer le transfert massif d'argent et des biens qui se fera par l'aristocratie fortunée au bénéfice des monastères pour leur solliciter l'intercession de la prière des moines, autant pour les vivants l'intercession que pour les défunts d'ailleurs. Beaucoup de fondateurs de monastères furent d'ailleurs de hauts dignitaires ou des nobles ayant tout quitté pour entrer en religion, en mettant leur fortune au service de leur fondation. Mais je vous l'ai dit, dans cet ouvrage, l'analyse est très détaillée, et l'auteur procède non seulement à une étude chronologique, donc de cette période qui va du 3e au 7e siècle, mais aussi une étude différenciée par région. On passe ainsi de l'Afrique du Nord avec Saint-Augustin, au sud de la Gaule avec les moines de Lérins, puis au nord de la Gaule avec Saint Grégoire de Tours et enfin Saint Colomban, moine venu d'Irlande et qui a évangélisé une grande partie de l'Europe occidentale. Et nous voyons comment la pratique des dons en argent a changé beaucoup de choses dans la société. Car elle eut pour effet de faire bouger les usages traditionnels qui assimilaient richesse et valeur humaine, suivant l'idée que si vous êtes bon, Dieu vous récompense forcément par la richesse. Ça va évoluer vers l'instauration d'une société monastique, donc de frères, ayant renoncé au pouvoir de la richesse pour se constituer, selon l'Évangile, un trésor dans le ciel. Mais paradoxalement, ce sont les moines qui vont hériter d'immenses fortunes pour les orienter, ce qui est une bonne chose, vers le service des pauvres et un bon usage des richesses terrestres, c'est-à-dire d'abord se consacrer eux-mêmes à la prière d'intercession pour le salut des âmes. Peter Brown étudie également l'évolution des réflexions sur la vie éternelle, la vie des saints, qui infléchit aussi le rapport à l'autorité dans l'Église, qui va changer parce qu'elle se relie plus directement aux saints en tant que toujours vivants, mais qui agissent depuis le ciel. Ainsi, par exemple, l'évêque Grégoire de Tours tirait son autorité de la présence discrète à ses côtés de Saint Martin, qui en général comptait sur les miracles manifestant l'action des saints sur la terre pour rappeler à l'ordre la société gauloise et l'inviter à la paix et à la concorde. Donc, ne fût-ce que pour ce rapport aux saints, ce livre présente, me semble-t-il, un intérêt pour le simple chrétien, en montrant comment le contenu de notre foi s'est construit très progressivement à travers les siècles, avec des variations d'une époque à l'autre, mais aussi d'une région à l'autre, quand ce n'est pas d'une personne à l'autre, comme dit notre auteur. À travers l'étude donc d'un thème précis comme l'histoire ici de la vision chrétienne de l'au-delà, on se rend compte que tous les aspects de la religion ne sont pas forcément présents en même temps, et que le christianisme est une religion vivante, en tout cas qui bouge beaucoup, voire insaisissable dans la pluralité de ses expressions de foi. Donc cela peut nous aider à relativiser les apparents conflits internes dans l'Église d'aujourd'hui, en comprenant mieux qu'ils peuvent être de simples mises en perspective différentes d'une même totalité à laquelle, dans le fond, nous n'avons pas encore entièrement accès. Je vous rappelle le titre de ce livre, « Le prix du salut, les chrétiens, l'argent et l'au-delà en Occident du 3e au 7e siècle » de Peter Brown, et ce livre était paru aux éditions Belin en mai 2016 et vous le trouvez à la bibliothèque diocésaine de Chartres. À présent, le Père Willem qui vous présente un deuxième ouvrage.
Voici encore le mystère du mal, Benoît XVI et la fin des temps de Giorgio Agamben aux éditions Bayard, paru en janvier 2017. Giorgio Agamben est l'un des philosophes contemporains les plus novateurs Il est l'auteur d'une œuvre considérable traduite dans le monde entier. En accomplissant son grand refus, Benoît XVI n'a pas fait preuve de lâcheté, mais bien au contraire d'un courage qui prend aujourd'hui un sens et une valeur tout à fait exemplaires. Sa décision attire l'attention sur la distinction entre deux principes essentiels de tradition éthico-politique dont nos sociétés semblent avoir perdu toute conscience, la légitimité et la légalité. Si la crise que traverse actuellement notre société est si grave et si profonde, c'est parce qu'elle ne remet pas seulement en question la légalité des institutions, mais aussi leur légitimité. Pas seulement, comme on le répète trop souvent, les règles et les modalités de l'exercice du pouvoir, mais aussi le principe même qui fonde et le légitime. Le mystère du mal dont parle l'apôtre Paul n'est pas un sombre drame théologique qui retarde la fin des temps, paralysant et rendant toute action énigmatique et ambiguë, mais un drame historique où le dernier jour coïncide avec le moment présent d'où chacun est appelé à jouer un rôle sans réserve et sans ambiguïté. Voici un passage. Il y a dans l'Église deux éléments inconciliables qui cependant ne cessent de s'enchevêtrer historiquement. L'oikonomia, c'est-à-dire l'action salvatrice de Dieu dans le monde et dans le temps, et d'autre part l'eschatologie, la fin du monde et du temps. Quand l'événement eschatologique a été mis de côté, le développement de l'oikonomia l'a sécularisé, s'est perverti et est devenu littéralement sans fin, c'est-à-dire sans but. À partir de ce moment, le mystère du mal, déplacé de son lieu propre, érigé en structure ontologique, interdit à l'Église tout vrai choix véritable et fournit en même temps un alibi à ses ambiguïtés. Je crois que c'est seulement si l'on restitue le mysterium iniquitatis à son contexte eschatologique qu'une action politique peut devenir de nouveau possible, tant dans la sphère théologique que dans la sphère profane. Le mal n'est pas un drame théologique obscur qui paralyse, est énigmatique et ambigu toute action, mais c'est un drame historique où la décision de chacun est à chaque fois en question. Thank you.
Merci au Père Willem, et voici donc que je vous présente moi-même un deuxième livre que la bibliothèque diocésaine vient d'acquérir. Il s'agit d'un autre livre d'histoire, dont le titre est « Jésus thérapeute, quel rapport entre ses miracles et la médecine antique ?» Un livre de Christine Prieto, qui est protestante. Et ce livre est paru au début de 2015, donc pas tout neuf, aux éditions Labor et Fides. Il s'agit en fait de la thèse de doctorat en théologie de Christine Prieto. Thèse un peu simplifiée et abrégée pour les nécessités de la parution de ce livre, qui fait quand même plus de 600 pages. Le sujet de sa thèse est en fait les miracles dans l'évangile de Luc. Et dans ce livre-ci, l'auteur analyse une vingtaine de miracles en les comparant à la médecine traditionnelle de cette époque. Son propos est bien sûr de voir s'il y a une spécificité des guérisons opérées par Jésus. Et il n'est pas anodin que son choix se porte sur Saint Luc, car cet évangile comporte beaucoup de miracles, dont beaucoup sont communs avec les autres évangiles, mais Luc en ajoute 7 en propre. Et ce sont 7 miracles où on trouve un intérêt tout particulier pour l'aspect thérapeutique. On sait que la tradition populaire chrétienne a souvent décrit Saint Luc comme étant médecin lui-même. Mais Christine Prieto démystifie un peu cette rumeur en disant que de cela, rien n'a pu être prouvé. Mais il est évident quand même que cette question des guérisons intéressait tout particulièrement Saint-Luc. Nous pouvons par exemple remarquer que dans tous les évangiles, au moment où on décrit l'arrestation de Jésus et qu'il y a donc une résistance de la part des disciples de Jésus, et que l'un des disciples va donner un coup d'épée pour trancher l'oreille d'un de ceux qui sont venus pour arrêter Jésus, Jésus s'interpose en refusant la violence. Mais, et c'est seulement chez Saint Luc que nous voyons alors Jésus guérir miraculeusement l'oreille de cet homme qui est donc serviteur du grand prêtre. Saint Luc met en avant ce souci qu'avait Jésus de prendre soin des corps. Par contre, l'évangile de Luc n'a pas intégré dans son texte certaines guérisons qui sont présentes dans les autres évangiles. Et Christine Prieto en conclut que Saint Luc n'aimait pas trop tout ce qui pouvait lui sembler suspect, voire un peu magique, dans certains miracles qu'il met de côté, comme par exemple la guérison d'un aveugle, en Marc chapitre 8, où Jésus emploie de la salive et qui doit s'y reprendre 2 fois pour guérir complètement cet homme. Ça lui paraît suspect, donc on ne le prend pas. Ou aussi, pour l'évangile où Jésus guérit en Marc 7, cette fois, guérit un sourd-muet en lui mettant les doigts dans les oreilles, ça non plus, ça ne plaît pas à Saint-Luc qui ne prend pas ce miracle. Une grande partie du livre de Christine Prieto est en fait consacrée à l'histoire de la médecine antique. Médecine en Israël, mais aussi dans tout le monde culturel environnant, qu'il soit égyptien, assyro-babylonien et gréco-romain. Et rappelons que, évidemment, que la médecine rationnelle que nous la connaissons aujourd'hui est en effet née en Grèce avec Hippocrate. Et pourtant, les recherches de notre auteur montrent que raison et religion n'étaient pas encore séparées à cette époque-là, car les médecins n'étaient jamais athées dans l'Antiquité. Les prêtres avaient bien sûr perdu de leur ancienne autorité sur la fonction médicale, mais médecine et surnaturel ont longtemps continué à cohabiter sans aucune difficulté. Et en Israël, surtout, on continuait de penser que Dieu est le seul vrai médecin, même si des thérapeutes peuvent participer à son œuvre. Alors, qu'en est-il de Jésus? Les textes de l'évangile de Luc montrent que sa principale thérapeutique est la parole, qu'il y a convergence entre son enseignement et ses guérisons. Mais sa parole a bien sûr une puissance agissante, car elle est aussi l'action de l'Esprit-Saint. En fait, l'action thérapeutique de Jésus est la médiation choisie par Dieu pour manifester son salut, d'abord à Israël, puis universellement à toutes les nations. Les guérisons sont le signe du salut qui se réalise sur terre. Mais nous voyons qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de guérison dans l'Évangile, elles sont aussi diverses que les pathologies qui sont rencontrées. Cependant, à la différence des autres thérapies, celles des thérapeutes itinérants de cette époque ou des premiers médecins, Saint Luc considère que celles de Jésus sont toujours instantanées et surnaturelles et surtout immédiatement efficaces, ce qui n'est pas le cas pour les médecins. La foi du malade joue aussi bien sûr un rôle dans ces guérisons. Il y a ensuite un appel à la conversion, car le salut s'exprime aussi par une mise en route à la suite de Jésus dans la vie concrète au quotidien. Comme la parole, le miracle a une fonction de libération du mal à tous les niveaux de l'être, y compris le corps. Il pousse au repentir et au changement radical de vie. Donc voici un livre très intéressant, surtout si vous vous intéressez à l'histoire de la médecine, dans l'Antiquité en particulier, et à ses rapports avec la foi chrétienne. Je vous rappelle le titre de ce livre, « Jésus thérapeute, quel rapport entre ses miracles et la médecine antique ?» de livre de Christine Prieto, paru aux éditions Labor et Fides en 2015, et que vous pourrez trouver à la bibliothèque diocésaine rue Saint-Aimant à Chartres. Et je vous dis à présent, au revoir chers auditeurs et à très bientôt.